Bienvenue dans ce podcast d'écologie intitulé « Crise économique, crise financière, quel avenir pour l'UE ?» Comme vous le savez sûrement si vous écoutez ce podcast, écologie est un mouvement de jeunesse lié mais indépendant du Parti Écolo qui milite pour la justice environnementale et sociale. C'est le groupe de travail sur les questions internationales d'écologie qui est à l'initiative de ce podcast et qui organise régulièrement des débats, des formations et adopte des positions sur les enjeux internationaux pour, ensuite, les défendre et les visibiliser. Notre objectif aujourd'hui est d'informer et de former les citoyens aux grands enjeux économiques et politiques européens qui vont se présenter ces prochains mois. Pour cela, nous accueillons Aline Fares qui va nous aider à analyser les origines de la crise et à explorer les différentes options politiques qui iraient dans le sens de la justice sociale et environnementale. Aline Fares est conférencière, auteure et militante dans le secteur de la finance. Ancienne du groupe Dexia à Luxembourg, puis à Bruxelles, où elle a notamment été conseillère auprès du directeur des activités de banque commerciale du groupe. Elle quitte la banque fin 2011 et rejoint le secteur associatif, notamment l'ONG Finance Watch et l'organisation CADTM, donc le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. Cela lui permit d'approfondir sa compréhension des mécanismes qui avaient conduit à la faillite du système financier et à son sauvetage aux frais de la population. Depuis, elle milite dans le but de partager ses expériences, réflexions et idées pour une mobilisation populaire sur les enjeux bancaires et financiers, et ce, notamment au travers du collectif Désorceler la finance et de la conférence gesticulée Chronique d'une ex-banquière. Quant à moi, je m'appelle Ryan, 26 ans, souriant, membre d'écologie depuis 2 ans, économiste, et c'est moi qui vais vous accompagner au cours de cet entretien. Afin de comprendre les enjeux de la crise économique que traverse l'Union européenne et des perturbations politiques que celle-ci induit, nous allons d'abord revoir avec Aline quelques fondamentaux économiques, le rôle des banques, la réponse européenne à la crise, avant d'aborder quelques éléments plus techniques comme les réformes nécessaires pour le système financier et les initiatives citoyennes telles que la campagne Belfus est à nous ou alors la création récente de la banque durable et coopérative Newbee. Aline Fares, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Merci pour l'invitation.
Ça nous fait plaisir. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer votre engagement ? Qu'est-ce qui vous a poussé à tout lâcher pour vous lancer dans le milieu associatif ?
Moi, mon engagement, il commence en fait quand j'étais à la banque Dexia. Puisque pendant mes 10 années là-bas, il y a eu la crise financière de 2007-2008. Ça faisait plusieurs années déjà que je me questionnais sur le sens de ce travail, puisque pendant mes années au Luxembourg, j'ai compris ce que c'était qu'un paradis fiscal. J'ai compris à quoi je contribuais par mon rôle, même s'il n'était pas essentiel dans l'affaire, c'était un rôle. Et puis, quand je suis arrivée à Bruxelles, c'était le début de la crise financière qui a explosé un an après, qui a conduit à la faillite de Dexia, enfin à sa presque faillite, puisque Dexia a été sauvée par l'État belge et par l'État français, avec du coup un endettement public qui a explosé, une exigence de la population de prendre en charge ce coût. Et c'était particulièrement violent en comparaison avec la façon dont c'était pris en compte à l'intérieur même de la banque. Il s'agissait de se défaire du joug de l'État le plus vite possible, alors que la banque ne pouvait pas tenir debout son intervention publique. Il n'était pas question de penser est-ce que la population allait être capable, est-ce qu'elle souhaitait, est-ce qu'il était possible qu'elle paye cette facture, est-ce qu'il était légitime qu'elle paye cette facture. Et en fait, c'est à cette période-là que c'était un petit peu avant la crise, en fait, que j'ai commencé à tomber sur le travail du CADTM et sur le questionnement de l'illégitimité ou la légitimité ou non des dettes contractées par les États. Et il m'a semblé assez vite que la façon dont le CADTM posait ces questions était particulièrement pertinente et s'appliquait particulièrement bien au cas des sauvetages bancaires de 2008. Alors, je suis encore restée quelques années à la banque pour tout un tas de raisons, plutôt mauvaises, mais bon, qui existent. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu 3 ans après l'explosion de la banque, la presque explosion de la banque Dexia, après le premier sauvetage de la banque Dexia. Il m'a fallu presque 3 ans avant de quitter la banque. Et mon premier réflexe quand j'ai quitté la banque, ça a été de m'engager en tant que militante au CADTM. Et puis, quelques mois plus tard, de rejoindre comme travailleuse, pour le coup, comme salariée, l'ONG Finance Watch. Juste pour dire un mot sur l'ONG Finance Watch, où j'ai passé 4 ans et demi. La raison pour laquelle j'ai été là-bas, c'est parce que c'était une ONG qui venait de se créer, qui avait pour objectif de défendre un point de vue société civile avec une expertise sur le secteur financier et sa réglementation au niveau européen après la crise financière, et que visiblement si j'avais cette volonté d'engagement d'une part et que je ne voulais pas mettre complètement à la poubelle mes 10 années d'expérience chez Dexia, bah, c'était probablement le meilleur endroit puisque Finance Watch cherchait des anciens du secteur financier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans cette association.
Merci beaucoup Aline, merci pour ton engagement aussi. Du coup, est-ce que tu peux nous aider à éclaircir un peu à quoi servent les banques ? Pourquoi le secteur financier est-il si important pour l'économie aujourd'hui ?
Juste pour dire encore une petite chose en continuité avec les premiers points que j'ai développés, cette question-là, je ne sais y répondre que depuis quelques années après que j'ai commencé chez Finance Watch.
Ah bon ? Enfin,
disons non. Quelques années, pardon, je dis une bêtise. Je l'ai vraiment compris dans ma première année où j'étais chez Finance Watch. Et comment je l'ai compris ? C'est parce que des militants et des militantes du CADTM, quand je suis arrivée au CADTM, m'ont posé la question. Elles se sont dit, c'est peut-être pas si mal d'avoir une ancienne banquière dans la bande parce que elle va pouvoir nous expliquer des choses. Et une des questions, des premières questions qui m'a été posée, c'est, Aline, est-ce que tu voudrais pas nous expliquer à quoi ça sert une banque ? Comment ça fonctionne une banque ? En vrai, c'était donc dans mes premiers mois où je venais de quitter Dexia. Et j'étais bien embêtée. Je savais pas expliquer alors que j'ai fait des études à HEC à Paris. J'ai étudié à HEC Paris, donc une école de commerce, une école de gestion. J'avais passé 10 ans dans une banque et j'étais bien embêtée à cette question. Et c'est en cherchant, en me renseignant. En fait, c'était juste avant que je rentre chez Finance Watch, je dis des bêtises. C'était juste avant que je rentre chez Finance Watch, dans mes premiers mois de militance au CADTM. Du coup, j'ai cherché. J'ai été sur Internet, j'ai lu, je me suis renseignée. Et c'est comme ça que j'ai compris que les banques étaient au centre de la création monétaire. Et ça, ça a été vraiment un déclic très important. En fait, c'est une fonction qui est essentielle et qui se reflète dans la façon dont on appelle les banques au niveau réglementaire. Au niveau réglementaire, les banques s'appellent institutions de crédit. En fait, c'est la première fonction des banques, le crédit. Et les banques, à chaque fois qu'elles octroient un crédit, mettent de l'argent en circulation dans l'économie et en fait créent cet argent. À chaque fois qu'une banque, par exemple, si vous allez à la banque pour emprunter, pour acheter un appartement, disons que vous allez emprunter 150 000 euros, la banque, si elle octroie ce crédit, si elle est OK pour octroyer ce crédit, elle va mettre sur votre compte 150 000 euros. Et donc ça va être une mise en circulation de 150 000 euros. Ces 150 000 euros vont permettre de payer la personne à qui vous achetez l'appartement. En échange de quoi ? Vous promettez de rembourser 150 000 euros. Et ces 150 000 euros, c'est en fait de l'argent qui va venir de votre travail futur pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous allez travailler pour générer les revenus qui vont permettre de rembourser cet argent. Et une fois que l'ensemble des 150 000 euros seront remboursés, alors on pourra dire qu'il y a eu destruction de ces 150 000 euros, c'est-à-dire que la dette, elle est remboursée et donc la banque peut en créer une nouvelle. Et ça, c'est une des fonctions premières, enfin, en tout cas, c'est la fonction la plus centrale de la banque dans notre économie, c'est créer de la monnaie, la mettre en circulation avec une anticipation d'un travail, d'une production future et donc d'un remboursement futur. Mais il y a également une autre fonction qui est corollaire et qui va avec celle-ci, c'est la conservation de l'épargne, la conservation des dépôts. Donc ça, c'est une deuxième fonction essentielle des banques, qui est en gros de assurer que l'argent qu'on a sur notre compte, que ce soit quelques centaines d'euros qu'on a sur notre compte courant ou si on fait partie de la moitié de la population belge qui a une épargne, quelques centaines, quelques milliers, peut-être plus, et pour une minorité, beaucoup plus, d'argent qui est sur les comptes d'épargne, c'est s'assurer que cet argent-là est en sécurité, c'est-à-dire qu'il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et puis, il y a une troisième fonction qui est primordiale également, qui est d'assurer le bon fonctionnement des systèmes de paiement. C'est-à-dire que les banques sont là pour s'assurer que, on va avoir accès au cash quand on en a besoin, que quand on paye avec une carte, c'est reconnu par le commerce là où on va payer, que cette écriture sur son compte est bien valable, qu'il y aura des paiements possibles par virement, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on appelle les moyens de paiement.
Ok, donc on comprend que c'est vraiment une fonction essentielle dans l'économie pour que l'économie puisse tourner, pour que la machine puisse fonctionner. Mais du coup, pourquoi faisons-nous face à des crises financières tous les 10 ans, on a l'impression qu'à chaque fois ça craque. Pourquoi ça craque ?
Alors, le truc, c'est que les fonctions que je viens de décrire, c'est les fonctions de base. C'est ce qu'on pense que les banques sont occupées à faire. Mais en fait, si on regarde le bilan des grandes banques aujourd'hui, ces fonctions de base, elles ne représentent que un tiers du bilan de ces banques. Les deux tiers restants, donc qui sont les deux tiers prédominants finalement, et donc là je parle des très grosses banques comme BNP Paribas, comme ING, comme Deutsche Bank, HSBC, enfin ces noms qu'on connaît bien, les très grosses banques, c'est deux tiers des activités de ces très, entre la moitié et deux tiers des activités de ces très grosses banques, ce ne sont pas ces activités de base, ce sont des activités de marché, qui sont liées au marché financier. Et en fait, là, on rentre dans une autre fonction des banques qui a pris une place de plus en plus importante au fur et à mesure de la libéralisation des marchés. Au fur et à mesure, ça a commencé, disons, dans les années, fin des années 70, début des années 80. En fait, la part de cette partie-là a explosé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, en fait? Alors, il y a le financement des États. Les banques, elles détiennent de la dette publique. Donc quand un État emprunte, il va émettre de la dette, hein, depuis notamment, mais ça on en reparlera, depuis que l'État n'emprunte plus auprès de la Banque centrale, mais qu'il doit passer via les banques, depuis le traité de Maastricht notamment, les banques détiennent de plus en plus de dettes publiques. C'est elles qui achètent la dette publique, c'est elles qui financent en premier lieu les emprunts des États. Il y a également de la dette d'entreprise. Quand des grandes entreprises cherchent à financer des gros projets, elles vont pas ou plus nécessairement passer par de l'emprunt bancaire, du crédit bancaire de base. Elles vont passer par les marchés financiers pour emprunter sur les marchés financiers. Et en faisant ça, elles émettent de la dette sur les marchés financiers qui va être en premier lieu achetée ou en tout cas soutenue par
des obligations,
par les banques. Donc c'est ce qu'on appelle des obligations. Le premier cas pour les États, c'est des obligations publiques. Le deuxième cas pour les entreprises, c'est des obligations d'entreprise. En anglais, on les appelle les corporate bonds. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Et en fait, la banque, dans ce rôle-là, c'est sa fonction de banque d'affaires. C'est-à-dire qu'elle va accompagner les États, elle va accompagner ces grandes entreprises dans la mise sur le marché de leurs dettes, dans de l'emprunt auprès des investisseurs, gros et petits aussi, des investisseurs via les marchés financiers, via les bourses. Et donc, ça, c'est une autre fonction qui a pris de plus en plus de place. Au fur et à mesure où les banques y ont trouvé leur compte aussi, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement les intermédiaires qui vont toucher d'ailleurs des commissions très importantes pour remplir ce rôle-là, qui vont se retrouver à la tête d'un stock de plus important de dettes publiques et de dettes d'entreprises. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, mais ce que ces banques font en tant que banques d'affaires, c'est aussi d'accompagner les entreprises dans leurs émissions d'actions. Donc, ce qu'on appelle les introductions en bourse, quand les entreprises vont mettre leur capital sur les marchés financiers, quand elles augmentent leur capital, là, il y a une nécessité d'intermédiation par une banque d'affaires.
Et c'est ces activités-là qui sont la source de ces craquements, alors, de ces crises?
Donc, ces activités-là, en fait, elles ont pris une place de plus en plus importante au fur et à mesure du développement des marchés financiers. Et les banques se sont mises à accumuler des titres, des titres de dette, à accumuler des actions, et à détenir aussi ces actions, non seulement pour le financement comme intermédiaire de ces activités-là, mais également pour leur compte propre. C'est-à-dire que c'est devenu intéressant en soi de détenir des titres, de parier sur l'évolution du prix des actions de Nestlé, de parier sur l'évolution du cours de la dette de tel État, etc. Et elles se sont mises du coup à faire du commerce de ces titres de plus en plus important, à parier sur des évolutions, à du coup développer des activités connexes, on va parier sur les évolutions des prix. Elles ont commencé à développer, et ça s'est développé à une vitesse folle depuis les années 90 et notamment depuis les années 2000, des produits dérivés qui vont parier sur des évolutions de prix, à parier sur des possibilités de défauts, et tout ça a pris une ampleur folle. Le truc, c'est que pour détenir tous ces titres, pour faire tous ces paris, les banques, elles ont aussi besoin d'emprunter de l'argent. Parce que pour ça, elles ne peuvent pas créer de l'argent pour parier. Ce qu'elles font, c'est qu'elles empruntent à d'autres investisseurs.
Elles peuvent créer de l'argent uniquement pour du crédit.
Elles peuvent créer de l'argent uniquement pour du crédit, ouais. Effectivement. Mais par contre, elles vont aller emprunter de l'argent pour aller faire toutes ces activités de marché qui sont de plus en plus liées à des paris, à de plus en plus court terme.
À d'autres banques, elles vont emprunter, du coup.
Alors, elles vont emprunter à d'autres banques. Mais elles vont aussi emprunter à ce qui a pris de plus en plus de place, des fonds d'investissement, des fonds spéculatifs, des fonds de pension, des fonds monétaires, toute une économie et toute une oui, tout un monde de tout un marché en fait qui s'est créé d'acteurs financiers qui accumulent du capital d'un côté et qui vont l'investir de l'autre et qui se retrouvent être des pompes à financement de l'appareil bancaire.
Et ce capital qu'elles détiennent, que ces fonds d'investissement détiennent et prêtent, c'est de l'épargne de particuliers.
Alors, in fine, il y a toujours des particuliers. Mais d'abord, c'est des particuliers fortunés. Et puis, de plus en plus, parce que bon, du capital, le capital, il est accumulé, notamment par des personnes qui en ont de plus en plus. L'augmentation des inégalités, il produit ça et il vient aussi de là. C'est de l'accumulation de capital par une minorité. Mais de plus en plus, il y a eu, à partir des années 80, 90, et ça s'est accéléré, un embrigadement d'une partie de plus en plus importante de la population.
De la classe moyenne.
On a commencé par le haut de la classe moyenne, ouais. Puis la petite classe moyenne, et puis alors là, ça s'étend. Et cet embrigadement, il vient de « Ah, vous avez un petit peu d'économie, c'est quand même dommage de laisser son argent dormir, vous devriez vous aussi investir. » Donc des gens ont commencé à investir, donc qui ont du capital, hein, ont commencé à investir, ont commencé à acheter des fonds d'investissement.
Donc quand on parle des fonds de pension, par exemple, ça incorpore énormément d'épargne de classe moyenne.
Alors ça, c'est quand même le résultat d'une destruction de l'idée de sécurité sociale et de l'idée de solidarité pour la constitution des caisses de retraite. Mmh. Et c'est dans les pays les plus libéraux qui se sont le plus rapidement éloignés ou qui ont eu des bases dès le départ relativement faibles pour la sécurité sociale, notamment les pays anglo-saxons, États-Unis, Grande-Bretagne, et puis les pays du nord de l'Europe, où on a eu une libéralisation très rapide de la pension. Sauf qu'il faut bien que les gens ils aient de la pension, et donc, enfin, en tout cas, qu'ils aient des revenus après leurs années de travail. Et donc ça, on a ce déploiement de plus en plus rapide des fonds de pension, qui sont en fait la formation de caisses de retraite à titre individuel. C'est de l'individualisation de la création de la retraite par capitalisation, à l'opposé de la retraite par socialisée, ouais. En fait.
Donc les banques utilisent tout ce capital, empruntent tout ce capital pour financer les activités d'achat d'actions, d'obligations, de produits dérivés dont vous parliez.
L'exemple des fonds de pension, ce capital s'accumule, forme une puissance d'investissement énorme qui cherche des débouchés et qui va se retrouver dans des dettes publiques, dans du capital d'entreprise, dans tout un tas de produits financiers qui, in fine, sont des parts d'entreprise et des parts de dettes, publiques et privées, qui cherchent donc ces débouchés et qui passent bien souvent par l'intermédiation des banques, mais qui va aussi se retrouver à acheter des actions et des obligations des banques. Donc c'est juste pour dire que ces fonds-là sont une des ressources des banques. Ce que je veux décrire par là, c'est qu'on a un système en fait qui devient de plus en plus financiarisé, qui va amener de plus en plus d'épargne sur les marchés financiers, qui va chercher de plus en plus de débouchés, qui va donc pousser à la création de plus en plus de débouchés, mais qui surtout va créer énormément d'interconnexions entre les acteurs financiers, et les banques sont au centre de cette interconnexion.
Donc c'est ça, quand on parle de financiarisation, c'est le placement de tout le capital, de toute l'épargne des particuliers sur les marchés financiers.
Alors il y a cet aspect-là, il y a aussi, en fait à chaque fois qu'on a un pan de notre organisation sociale qui passe du public au privé, qui passe du socialisé au privé, qui passe du commun au privé, on a une forme de financiarisation. C'est vrai pour le logement par exemple. Moins il y a de logement social, plus il y a un marché privé, plus il y a de logements qui rentrent sur le marché privé, qui deviennent des produits d'investissement aussi. Donc c'est tout ça la financiarisation. C'est le fait que les entreprises aussi reposent de plus en plus sur le financement de marché et de moins en moins sur leur propre financement par les activités qu'elles génèrent.
D'accord. Merci beaucoup. Mais donc, pour comprendre la crise actuelle, la crise sanitaire nous a précipités dans une crise économique. Dans quelle mesure cette crise est uniquement liée au coronavirus ou bien est-ce lié à la structure de l'économie même avant même la crise du coronavirus?
Alors, ce que j'essaie de décrire là, c'est qu'on a une économie qui est basée sur de plus en plus de marchés financiers, mais aussi de plus en plus d'endettement. C'est-à-dire que ce soit les États, les entreprises ou les particuliers, on va faire de plus en plus appel au crédit bancaire, à l'endettement via les marchés financiers. Mais cet endettement-là, il suppose à un moment donné de rembourser, ou en tout cas, c'est l'exigence qu'il y a derrière. Donc on a une économie qui fonctionne de plus en plus sur la dette. Et ça fait longtemps. En 2008, il y a eu la crise financière. Mais cette crise financière, elle a été résolue comment? Par des sauvetages bancaires qui ont été financés comment? Par un endettement public qui lui-même a été financé comment? Par les gens qui détenaient le capital, qui ont acheté cette dette. Et cette dette doit être remboursée. Et donc on a des politiques d'austérité qui ne font qu'aggraver la situation. Et on n'a pas changé les fondamentaux du système financier, qui reste toujours aussi interconnecté, beaucoup trop gros, etc. Et donc, du coup, toutes ces fragilités préexistantes dans le système, elles existent toujours depuis 2008. Le niveau d'endettement, il n'a cessé d'augmenter au niveau des États, mais aussi au niveau des entreprises et au niveau des particuliers aussi. Parce que moins vous avez de services sociaux, plus vous avez d'austérité et plus les gens comptent sur l'endettement, sur le crédit, pour des choses de plus en plus essentielles dans leur vie. Ce qui fait que on a un peu partout des bulles de dette qui se sont constituées. Des bulles de dette immobilière, des bulles de dette étudiante, des bulles de dette d'entreprise. Et les signaux, ils étaient déjà au rouge depuis, on pourrait dire depuis toujours, en fait, depuis la crise financière. Mais c'est devenu de plus en plus évident et de plus en plus présent dans des rapports du Fonds monétaire international, des banques centrales, d'économistes. Il y a eu de plus en plus de signaux qui disaient en 2010, en 2012, en 2015, en 2018, c'est pas soutenable, on a un niveau d'endettement qui est délirant, un jour, ça va exploser, et vu que le système est toujours aussi interconnecté, qu'on a des banques qui sont toujours plus grosses et qui sont toujours à exercer des fonctions essentielles, le jour où ça pète, ça se répand dans tout le système, les grosses banques vont être touchées et elles vont de nouveau nous prendre en otage en nous expliquant « Eh oui, mais si on se casse la figure, c'est l'épargne et les moyens de paiement ». Les fonctions essentielles que j'exposais au départ, qui vont être bloquées, et ça, vous pouvez pas. Donc, vous devez de nouveau nous sauver. Donc, cette situation de crise, elle préexiste très largement à l'arrivée de la crise sanitaire.
Mais du coup, on ne sait jamais quand ça va péter. On a l'impression qu'on ne sait jamais quel est le seuil de surendettement.
Bah en fait, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Ce qui est évident, c'est qu'à partir du moment où on est dans un système qui ne peut supporter le moindre choc, c'est un système trop fragile et c'est un système qui doit être transformé.
Et là, du coup, on a subi un gros choc avec la crise du coronavirus qui a augmenté le niveau d'endettement de manière significative des États notamment, mais pas seulement des États, des autres agents économiques aussi.
Alors, on n'est pas sur un endettement tout de suite. Ce qui est très intéressant de voir, par exemple, quand on regarde un petit peu les titres des journaux économiques et financiers fin 2019 et début 2020, c'est vraiment frappant. Fin 2019, c'était la fête, quoi. On n'avait jamais connu d'année boursière pareille. Tous les indicateurs boursiers, c'était plus gros dividendes jamais enregistrés, quasi de l'histoire de la bourse, hein, quand même, sur une année. En gros, les actionnaires, les investisseurs se sont gavés en 2019. Les niveaux de valorisation, les niveaux des CAC 40, Nasdaq, etc., ont explosé. Ça a monté progressivement depuis 2008, mais ça a explosé en 2019. Et puis, à partir des premiers signes de la pandémie en Chine, et à partir des premières décisions d'arrêt des activités, donc déjà fin janvier 2020, il y avait les premiers signes de « Ah mince, les investisseurs vont pas faire les profits qu'ils avaient escomptés ». On risque d'avoir des dividendes qui sont moins importants l'année prochaine. Et en fait, les valorisations boursières, c'est quoi? C'est les investisseurs qui se disent, on continue d'acheter tant qu'on pense qu'on va se gaver.
Des anticipations.
C'est des anticipations de dividendes élevés et d'augmentation de la valeur parce que tout le monde achète, en fait. Mmh. Tant que ça marche, ça marche. C'est vraiment un truc, c'est hyper tautologique les marchés. Par contre, une fois qu'il y a les premiers arrêts d'activité, là, il y a de l'incertitude déjà, et ça, les marchés détestent l'incertitude. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup les États autoritaires. Les marchés aiment énormément les États autoritaires parce que ça donne beaucoup de certitude. C'est pour ça qu'ils avaient salué aussi bien l'arrivée de Bolsonaro que d'autres dictateurs ou quasi-dictateurs. Il y a cet effet d'incertitude qui fait que les marchés commencent à paniquer. Mais il y a aussi le fait que s'il y a arrêt d'activité, il y a moindre rentrée d'argent, donc des dividendes, des profits qui risquent de diminuer, et donc la part pour les actionnaires comme les dividendes qui risquent de diminuer. Donc ça a commencé d'abord par ça. Et puis c'est devenu de plus en plus prégnant. Tout au mois de février, il y a une grosse pression sur les marchés financiers qui a été assez vite du côté des États. Et c'est pour ça, et c'est vraiment très marquant, que quand les confinements ont commencé en Europe occidentale, notamment en France et puis en Belgique, c'était mi-mars 2020, les premières mesures qui ont été prises par la Banque Centrale Européenne, moi j'étais vraiment mais sur le cul que ça ne fasse pas plus de commentaires que ça. 19 mars 2020, la Banque Centrale Européenne parle de 750 milliards d'euros de financement, de refinancement, de liquidités qui vont être mises à disposition sur les marchés financiers.
Créées de toutes pièces,
mais ce qui est dingue, c'est que c'était pas du tout l'enjeu pour la population. La population, on lui disait, on arrête parce qu'on est face à une pandémie. Donc l'enjeu, il est sanitaire. L'attention doit porter sur l'hôpital, sur les services de première ligne, sur tout ce qui a été applaudi en permanence, mais où il n'y a pas un copec qui est arrivé. Les services de nettoyage dans les hôpitaux, les personnes qui tenaient les caisses dans les supermarchés, les éboueurs, toutes ces fonctions-là, pas un rond. Par contre, 750 milliards de la Banque Centrale Européenne, et ces 750 milliards d'euros, ils vont où ? Ils vont dans le système financier. Et là, je voudrais revenir sur un mot qu'on a beaucoup entendu, c'est la liquidité. Ça veut dire quoi, la liquidité ? En fait, ça veut dire que les acteurs financiers, donc les gros investisseurs, les gens qui concentrent le capital, que ce soit des individus ou bien des ensembles comme les fonds de pension, les fonds d'investissement, etc. In fine, on parle quand même d'une minorité de la population, hein, à l'échelle mondiale certainement, même à l'échelle du monde capitaliste du Nord, quoi.
Occidental, quoi.
On ne parle pas d'une majorité de la population, on parle d'une minorité de la population qui détient ses capitaux et qui est intéressée à ses capitaux. Pour donner un chiffre, en France et en Belgique, on dit que c'est à peu près 10% de la population qui a des intérêts d'une manière ou d'une autre dans les marchés financiers. Bon, ces capitaux-là, quand les marchés ne sont pas liquides, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Ça veut dire « je suis investisseur, je veux vendre un titre pour en acheter un autre, je veux vendre du Nestlé pour acheter du Coca-Cola ». Si à ce moment-là, les marchés ne sont pas liquides, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui va m'acheter mon Nestlé.
Que je ne peux pas me débarrasser de mes titres financiers.
Je ne peux pas me débarrasser de mes titres financiers Nestlé. Si je ne peux pas me débarrasser de mes titres financiers et qu'on est plusieurs à vouloir vendre, qu'est-ce qui va se passer ? Le cours du titre va baisser. Si personne n'achète à un moment donné ou si les achats sont inférieurs aux demandes de vente, les titres baissent et là on a ce qu'on appelle un krach boursier. La liquidité, elle est là pour ça, elle est là pour dire aux investisseurs, t'inquiète, ton titre, tu vas de toute façon pouvoir t'en débarrasser et ça n'aura pas d'incidence ou si peu sur la valeur du titre. C'est ça que ça veut dire. Et au final, ils se retrouvent où les titres ? Ils se retrouvent dans les caisses de la Banque Centrale. Donc c'est vraiment, la liquidité, c'est un sauvetage des détenteurs de titres financiers. C'est ça qui s'organise. Et les 750 milliards du mois de mars n'ont pas suffi. Il a fallu en rajouter une couche de 600 milliards plusieurs mois plus tard. Ça sert à sauver les acteurs financiers, les détenteurs de produits d'investissement. Mais ça a bien sûr une autre fonction aussi dans le cadre de la pandémie. C'est que comme les arrêts d'activité qui ont été quand même massifs, tout ne s'est pas arrêté, hein, on le sait. Tout ne s'est pas arrêté puisque on a continué à manger, on a continué à se loger pour nous qui avons un toit, on a continué à pouvoir se soigner pour l'essentiel, on a continué à avoir de l'électricité, de l'eau et du gaz dans nos logements, a priori, sauf ceux qui ont été coupés, mais bon, globalement,
on a continué à se faire livrer.
On a continué à se faire livrer. Enfin, je veux dire, ce qui fait fonctionner la base vraiment très fonctionnelle d'une société, c'est pas ce qui fait société, mais les bases fonctionnelles de la société ont continué. Ça, ça a embauché beaucoup de monde, ça a engagé beaucoup de monde. Le fait que les marchés financiers continuent, ne soient pas confinés, par contre, c'était pas du tout essentiel. Et pourtant, ça a continué. Ça, c'était une priorité dingue, quoi, dans l'affaire. Mais bon, là où je voulais en venir, c'est que pour que tout ça continue, c'est une chose, mais le fait que plein de fonctions soient arrêtées, le fait que plein d'entreprises, on n'a pas beaucoup parlé de l'horeca, par exemple, de l'événementiel, du secteur artistique, tous ces secteurs-là, le fait, certaines industries, le fait que les entreprises n'aient plus de rentrée d'argent et disent on ne peut plus payer, notamment les PME, on ne peut plus payer nos salariés, qu'il n'y ait plus de revenus pour toutes ces personnes-là, pour tous ces employés-là, effectivement, ça devient problématique. La façon dont les États ont géré la question, c'est il faut qu'on se substitue et qu'on offre des possibilités de revenus de substitution. Il faut qu'on puisse garantir des crédits ponts pour toutes ces entreprises et pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas continuer à payer leur... Et j'aimerais bien revenir sur cette question-là de quels outils on a choisi. Mais là, ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où les États engagent des dépenses exceptionnelles et qu'elles ont déjà qu'il y a déjà des budgets qui sont vraiment très tendus, eh bien... Ça se finance comment ? Par un déficit public, c'est-à-dire par de l'emprunt.
Encore plus d'emprunt.
Encore plus d'emprunt, alors qu'on est dans des États qui sont déjà hyper endettés. Et cet emprunt-là, il n'est possible que si la Banque centrale dit « Vous inquiétez pas, vous pouvez acheter ces titres de dette publique et nous, in fine, on les rachète. » Donc, en fait, indirectement, les banques centrales ont financé l'endettement des États, ont rendu possible l'endettement des États, mais aussi l'endettement des entreprises et des particuliers, le surendettement des entreprises et des particuliers, puisqu'elles ont apporté cette fameuse liquidité aux banques pour qu'elles puissent continuer à endetter les États et les particuliers et les entreprises.
Du coup, est-ce que des faillites bancaires sont-elles encore possibles comme en 2008 ou est-ce que l'action de la Banque centrale nous prémunit totalement contre cette éventualité ?
Moi, je dirais même plus que, en fait, ce qu'on a vécu, enfin, en tout cas, ce qui s'est passé pendant les premières semaines et les premiers mois du confinement, c'est un sauvetage bancaire et financier, mais colossal, mais qui n'a pas porté ce nom. C'est-à-dire que les gouvernements, les banquiers centraux, les institutions qui nous gouvernent ont mis la priorité sur le sauvetage de tout cet appareil financier et bancaire qui est au centre de l'économie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'était inadmissible pour eux de penser qu'il puisse y avoir, et ça aurait été impossible de défendre un sauvetage bancaire qui porte ce nom. Par contre, ça ne veut pas dire qu'une nouvelle crise financière et bancaire n'est pas possible. Moi, je pense que tout est là pour y arriver, puisque ça continue, en fait, comme avant. On gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle. La même mécanique est alimentée par le même système qui crée des quantités astronomiques de monnaie qui terminent sous forme de capital entre un minimum de mains. Et qui continue de détruire le vivant, qui continue d'exploiter les gens, qui continue... C'est vraiment une machine à détruire qui continue d'être alimentée très massivement et qui, du coup, rend possible une prochaine explosion du système financier et bancaire. Ouais.
Donc là, on parle de le fait que le niveau d'endettement continue à augmenter et que l'alimentation des marchés financiers et la hausse fictive des valeurs boursières continue d'augmenter perpétuellement. Et oui. Donc, qui risque de craquer et de s'effondrer, de créer un krach boursier à nouveau. Aline Farès, est-ce que, de votre point de vue, on peut laisser les banques faire faillite, les banques et le secteur financier ? Est-ce qu'on aurait dû les laisser s'écrouler ?
Alors, en fait, il y a l'endroit, cette question-là, là, nous met à un endroit qui est vraiment intéressant. Quand on voit ce qui s'est passé en 2008, on nous a dit « il faut sauver les banques ». Absolument, parce que sinon c'est le chaos. Et on s'est retrouvé face à ce que c'est Isabelle Stengers et Philippe Pignard dans leur livre La sorcellerie capitaliste qui appellent ça une alternative infernale. C'est une alternative infernale, c'est une situation qui nous bloque complètement. En 2008, on nous a dit en fait, on n'a pas le choix. C'est soit on engage des dépenses publiques massives pour sauver l'appareil bancaire. Et comme ça, on sauve l'épargne de la population et le fonctionnement de nos systèmes de paiement et notre monnaie. Soit les banques s'écroulent, et alors là, ce qu'on nous a mis dans la tête, c'est des scènes de désastre, de guerre, de gens qui s'entretuent, de famine, etc. Enfin, c'était ça qu'il y avait derrière l'image du chaos.
Mais qu'est-ce qui se passe concrètement si des banques ont faillite ?
Alors, le truc, c'est que cette fausse alternative, cette alternative infernale, nous a mis dans un impensé de pensée. On n'a pas envisagé... Enfin, certaines ont envisagé, mais ça n'a pas passé la barrière de la barrière médiatique, la barrière du débat public, qui est une autre voie, qui est de dire, parce que oui, effectivement, il faut faire tenir, avant d'avoir d'autres solutions, il faut faire tenir les moyens de paiement, il faut faire tenir l'épargne à minima, en fait, un minimum d'épargne pour faire fonctionner pour que l'économie continue, enfin que les échanges en fait continuent à fonctionner, qu'on puisse continuer à s'acheter à manger, qu'on puisse continuer à se déplacer, etc. Bon, donc il y a quelque chose qui doit être sauvé, mais pour autant, tout ne doit pas être sauvé. Quand on sauve une banque sous prétexte de maintenir l'épargne, le système de crédit et les moyens de paiement, dont j'ai expliqué que c'était à peu près un tiers du bilan des banques, on sauve aussi les deux tiers. Sauf que les deux tiers ne sont pas essentiels.
C'est les deux tiers de quoi ? Est-ce que vous pouvez rappeler ?
Les deux tiers du bilan des banques. Il y a un tiers, ce sont les fonctions essentielles. Ouais. Deux tiers, ce sont... Et donc, c'est les fonctions de banque commerciale. Et deux tiers, ce sont des fonctions qui sont liées au marché financier.
D'accord.
À 95%, les fonctions liées au marché financier ne financent absolument rien.
D'accord.
C'est la finance qui tourne sur elle-même. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on sauve cette partie-là, qui est à l'origine des crises financières ? On pourrait tout aussi bien dire, OK, les banques font des pertes importantes. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'elles n'ont absolument pas les moyens d'assumer ces pertes parce qu'elles ont un niveau de capital très bas suite à tout cette idéologie libérale, suite au lobbying des banques et de la finance qui ont porte ouverte à la Commission européenne et dans les instances de réglementation, enfin bref. Donc les banques n'ont pas les moyens d'assumer les pertes, donc elles n'ont pas les moyens d'assumer les risques qu'elles prennent. On sauve la partie qui nous intéresse, pourquoi pas ? Mais par contre, on laisse la partie qui est génératrice de crise et qui ne nous intéresse pas parce qu'elle est source de destruction et pas de création et qu'elle ne finance rien qui nous intéresse, on laisse cette partie-là tomber. Cette partie qui, je le rappelle, est financée par des gros investisseurs. Et c'est à ces investisseurs qu'on fait porter les pertes. Donc pour moi, à ce titre-là et à ces conditions-là, aux conditions où on se pose la question de qui a les moyens d'assumer les pertes, les gros détenteurs de capitaux, les personnes qui accumulent, certains fonds comme les fonds spéculatifs qu'on appelle les hedge funds, il y a des quantités astronomiques d'argent qui font du mal et qui ont les moyens de prendre les pertes. Si on fait ça, si on se donne les moyens de faire ça, non seulement on se donne les moyens de détruire tout ce capital qui exerce une pression colossale sur le vivant, on détruit une partie de capital qui exerce une pression colossale sur les individus, et en plus, on restaure une forme de justice sociale, une forme de réduction de ces inégalités qui n'en finissent pas de nous choquer, et on peut reprendre en main l'appareil bancaire et financier.
Du coup, Aline Farès, quel rôle joue l'Union européenne dans le système économique et financier européen, et surtout par rapport aux États membres? Qui fait quoi?
Alors en fait, l'Union européenne, elle est en charge de, à la grosse touche, à peu près 80% des réglementations bancaires et financières au niveau européen. Donc c'est vraiment là que se joue la réglementation le cadre, la définition du cadre dans lequel opèrent les banques et les acteurs et tous les acteurs financiers. La réglementation au niveau européen, elle se joue avec entre trois grandes institutions, et il y a la Commission européenne qui élabore les textes de loi et qui les propose, qui les envoie d'une part au Parlement européen et d'autre part au Conseil européen. Et c'est ensuite le Parlement européen qui débat de ces textes de loi, qui propose des amendements. Ça se passe d'un côté, donc Parlement élu par donc les représentants de la population élus selon les systèmes électoraux qu'on connaît. Et puis d'autre part, il y a le Conseil européen qui là est...
les chefs d'État.
Voilà, c'est l'ensemble des chefs d'État des États membres de l'Union européenne. En fait, c'est vraiment une constitution tripartite de la réglementation. Moi, quand j'étais chez Finance Watch, où j'ai passé 4 ans et demi, j'ai suivi plusieurs textes de loi européens de réglementation financière et notamment la fameuse loi de séparation des activités bancaires. Qui avait vraiment le vent en poupe, qui était soutenu par la population de beaucoup de pays dont on réentendait parler après la crise financière, etc. Et donc, la Commission européenne avait travaillé sur un texte de loi là-dessus. Donc, la Commission européenne propose beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur la Commission européenne. Si bien que son texte, au fur et à mesure des mois et des années...
De la part de qui ? Des lobbies, des banques ?
Des lobbies, mais aussi des États.
Des États.
Parce que les États sont les plus gros lobbies de leurs grosses banques.
Okay.
La France, l'Allemagne se sont particulièrement distingués pour défendre leurs grands champions bancaires. Donc déjà la Commission européenne, elle est sous pression, mais elle propose un texte qui était à peu près OK selon nous, Finance Watch. Ensuite, le Parlement y apporte potentiellement quelques amendements, quelques améliorations, hein, la voix de la population, un peu. Et puis, dans le même temps, le Conseil européen, qui va beaucoup plus vite, émet un avis qui plombe complètement la proposition, et s'en suivent des négociations sans fin, qui, en général, sur l'essentiel des textes de loi, la Commission propose, le Parlement améliore un tout petit peu, et le Conseil, l'émanation des États, plombe. Ce qui est fou, en fait, c'est que les États ne sont pas visibles. L'institution européenne est une super excuse pour les États pour dire « mais c'est pas nous, c'est l'Europe ». Et en matière bancaire et financière, c'est particulièrement flagrant. Sauf que les États ont un rôle très important à jouer à tous les niveaux. Au niveau politique, parce que les commissaires et les cabinets des commissaires, c'est politique. C'est des représentations des États. Au niveau du Conseil de l'Europe, dont les délibérations ne sont pas publiques, et puis, bon, voilà. Donc, il y a plein d'autres dysfonctionnements dans les institutions européennes. Mais c'est là que se décide, malgré tout, la réglementation financière et bancaire.
Donc, selon vous, c'est les chefs d'État, les chefs des grands États qui jouent le rôle de défendre les intérêts des grands détenteurs de capitaux au détriment de l'intérêt général.
Les gouvernements, en général.
Ouais, mais, qui sont élus, pourtant.
Mais l'institution Commission européenne, avec ses traités, est aussi là pour défendre une Europe du capital. L'Europe donne la priorité sur la libre circulation du capital. Par contre, les individus, on a vu ce qu'on a fait. Vous savez l'horreur que c'est aux frontières européennes. Enfin, c'est pire que tout. Et on se dit encore défenseur des droits humains. Enfin, ce qui vient de se passer à Moria et ce qui se passe tous les jours dans la mer Méditerranée. Et même pour toutes les personnes migrantes sur le territoire européen, c'est vraiment... Mais la honte. Moi, je sais pas comment on arrive à... Enfin, c'est affreux, en fait, de se retrouver dans la situation, d'être complice de ça. Enfin, c'est aparté. Mais en gros, on a une Union européenne qui détruit tout un tas d'idées de liberté et de pratiques de la liberté. Par contre, la libre circulation des capitaux, elle est trop centrée. Je voudrais terminer par un exemple qui est vraiment flagrant, en tout cas dans la pré-crise financière de 2008. C'est quand la Grèce a commencé à se retrouver dans une situation insoutenable d'endettement qui avait été provoqué et encouragé par les grosses institutions financières d'ailleurs. Il y a eu l'intervention de l'Union européenne. Il fallait absolument que l'euro tienne, mais il fallait surtout éviter que les grosses banques européennes ne se cassent la figure et ne prennent des pertes trop importantes. C'est elles qui détenaient la dette de la Grèce.
Les banques françaises et allemandes en particulier.
En particulier. Et donc quand on a dit on sauve la Grèce, c'est pas ça qui s'est passé. L'argent, il a parfois même pas transité par l'État grec. L'argent, il a parfois été directement jusqu'aux banques. BNP, Deutsche Bank et d'autres banques. Et par contre, qui est-ce qui paye cet endettement, c'est la population grecque, au prix d'un appauvrissement colossal. Donc, quand on parle du rôle des institutions européennes dans le fonctionnement du système financier, les institutions européennes les régulent et ont la responsabilité de la non-réglementation et de la déréglementation du système et du fait que nous n'en sommes pas protégés. Mais elles le défendent aussi, elles défendent des intérêts minoritaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je crois, demande de l'attention publique, de l'attention populaire et des exigences populaires.
Aline Farès, si vous deviez identifier trois réformes qui seraient les trois réformes les plus urgentes et importantes pour le système bancaire et financier, Quelle serait-elle ?
La première, ce serait de séparer les activités bancaires entre banque commerciale, donc dépôt, crédit, moyen de paiement, et banque d'affaires. Ce serait la mise en faillite des banques d'affaires. De toute façon, elles ne tiendront pas à la séparation puisqu'elles sont entièrement subventionnées. Et puis, ce serait l'augmentation... Enfin, ah non, il m'en faut quatre. Je peux en mettre une quatrième ?
Oui, tout à fait, allez-y. Allez-y.
L'augmentation jusqu'à 20% dans le capital des banques. Donc aujourd'hui, elles en sont à 4-5%. Il faut que les banques détiennent jusqu'à 20% de capital par rapport à leurs engagements, notamment par rapport aux crédits qu'elles octroient, pour avoir les moyens de porter elles-mêmes les risques qu'elles prennent. Et surtout, de toute façon, vous n'aurez plus de capitalistes qui seront intéressés à détenir de telles banques parce que ça ne leur rapportera pas assez. C'est la socialisation du parc bancaire. C'est une fonction, cette fonction si essentielle de moyens de paiement, octroi de crédit et conservation de l'épargne, ça ne peut pas être soumis à la logique de maximisation du profit. D'autant plus qu'on est dans une période vraiment où on a besoin d'une mobilisation. On dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour la transition, etc. Mais l'argent, il est dans les banques, c'est les crédits bancaires. On nous parle de milliards qu'il faudrait créer, mais les crédits bancaires, c'est 15 000 milliards au niveau européen. Si ces crédits bancaires sont mis au service d'un projet écologique, social, mais c'est bon, on est bien. Mais pour ça, ça ne pourra pas passer par des banques qui fonctionnent à la logique de maximisation du profit. Il faut une socialisation de ces banques. Il faut qu'elles soient mises sous contrôle populaire. Il faut qu'elles soient détenues publiquement. Et il faut qu'elles aient des missions d'intérêt général, des missions d'intérêt public, écologique et social.
Donc vous dites que pour financer tous ces investissements dont on a besoin, en particulier en matière environnementale, on peut tout à fait créer l'argent pour financer ces investissements, mais que pour ça, il faut socialiser le secteur bancaire, l'ensemble du secteur bancaire. Quand on parle de socialisation, on parle de nationalisation, c'est bien ça ?
La nationalisation, pour moi, c'est complètement différent, parce que ça, c'est l'État qui devient, et ses gouvernements qui sont propriétaires.
D'accord.
Et quand on voit que les États aujourd'hui en Europe ont une tendance de plus en plus fascisante, je pense que c'est assez dangereux. Il faut qu'on ait vraiment... ce terme de socialisation n'est pas utilisé pour rien. C'est vraiment qu'il y ait un contrôle populaire. C'est vraiment qu'on ait des instances de contrôle sur ces banques. Il s'agit en fait de faire en sorte que les banques, ces 15 000 milliards de crédits qui sont aujourd'hui utilisés par les banques pour tout un tas d'activités, eh bien changent l'usage de ces crédits pour aller vers autre chose. Moins de destruction et plus de protection, de transition, de transformation.
Donc il s'agirait de transformer les banques en sorte de grandes coopératives qui seraient gérées démocratiquement par les citoyens.
Alors le truc, c'est que pour les banques, on est obligé de penser à différentes échelles. Mais il pourrait y avoir, en Allemagne par exemple, un tiers des banques, c'est des banques publiques locales, avec une gouvernance locale.
D'accord.
C'est pas pour dire qu'elles sont parfaites, mais il y a plein de choses de financement qui doivent être décidés au niveau local. On n'a pas besoin de géants bancaires. Donc plein de décisions au niveau local, ça peut se faire par des banques publiques locales, des caisses d'épargne locales, ça peut se faire par des coopératives, oui. Il y a certains projets qui sont de plus grande ampleur, qui demanderont des décisions au sein d'instances plus... alors, est-ce que ça doit être une collaboration entre les banques publiques locales? Est-ce que ça doit être des banques publiques au niveau d'une région, au niveau d'un pays, pour certains projets de plus grande ampleur? Voilà. Mais c'est vraiment des gouvernances qu'il faut repenser, c'est des propriétés communes et publiques qu'il faut repenser, mais qui sont absolument nécessaires. On a vraiment un appareil bancaire qui est trop dangereux aujourd'hui.
Un exemple concret de socialisation ou de proposition de socialisation, on va pouvoir en parler. Vous avez été à l'initiative de l'appel lancé par la plateforme Belfius est à nous, visant à empêcher la privatisation de Belfius et à lui confier une mission publique de financement de projets à plus-value sociale et environnementale. Nous avons également assisté récemment à la création de la banque coopérative belge et durable Newbie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux projets? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux?
Alors, dans les différences, la banque Belfius est une banque qui représente à peu près 20% du marché bancaire belge. La banque Newbie, c'est une banque en création. qui pour l'instant est à 0%.
20%, c'est combien de milliards, plus ou moins ?
Elle a à peu près un portefeuille de 90 milliards de crédits.
D'accord.
Un tiers pour des institutions publiques et des hôpitaux, des choses comme ça. Un tiers pour des entreprises et un tiers pour les particuliers.
D'accord.
À la grosse louche. Et puis en plus, il y a d'autres activités, mais donc voilà, 90 milliards de crédits. Donc ça, c'est une première différence, c'est qu'on a une banque qui est déjà bien assise ici et qui, si elle est transformée, a un pouvoir de transformation. Nubi est un projet de création, est une création. Deuxième différence, c'est qu'aujourd'hui, la banque Belfius, elle est propriété de l'État belge via la société de participation. Elle est gérée comme une participation financière par l'État belge, qui cherche à maximiser son profit.
Uniquement.
Uniquement. La banque Nubi, elle est pensée comme une création à partir d'une volonté de la société civile de se doter d'une banque, en ayant compris que les banques sont tellement essentielles au fonctionnement de l'économie actuelle. De ce fait, au centre de l'idée Nubi, il y a la représentation au sein, alors ça a été divisé en trois collèges, mais des clients et clientes de la banque au sein des différents collèges décisionnels de la banque.
C'est pas du tout le cas.
Non, c'est une bonne chose, c'est plutôt une bonne chose. Après, c'est pas parfait, mais c'est une bonne chose.
D'accord.
Pour Belfius, la grosse différence, c'est que c'est l'État qui a une participation financière de 100%, mais qui a une participation financière, et qui nomme des techniciens qui n'ont aucune légitimité démocratique à la tête de Belfius et qui n'ont aucun mandat de transformation à des fins sociales et écologiques de la banque. Donc ça, je dirais, c'est les deux grosses différences que j'ai envie de nommer. Après, ce que montre Nubi, l'expérience Nubi telle qu'elle est pour l'instant, c'est, vous avez sûrement entendu parler du fait que Nubi doit s'adosser au système bancaire existant, doit conformer, ou en tout cas n'a pas encore les moyens de ne pas se conformer aux exigences de passer par un des Big Four pour effectuer son contrôle. Donc là, ça va être une des grosses entreprises multinationales mondiales,
KPMG,
voilà. Qui va assurer le commissariat aux comptes de Nubi. Bon, c'est les champions de l'évasion fiscale, ils sont mouillés dans tout un tas d'histoires. Enfin, c'est vraiment un des agents du bon fonctionnement de ce système qui pose tellement de problèmes. Et qui est tellement violent et destructeur. Donc là, on a un problème. On a aussi la nécessité pour Nubi de s'adosser à une grande banque pour pouvoir assurer ses moyens de paiement. Si on a une banque publique socialisée comme Belfius, qui fonctionne dans l'intérêt général, la banque Nubi, elle pourra s'adosser pour ses moyens de paiement, c'est-à-dire pour la mise à disposition de toute la tuyauterie bancaire, mais aussi des guichets,
ouais.
Distributeurs, etc. Elle pourrait s'adosser à une banque publique. Et du coup, on n'aurait pas l'impression qu'à chaque fois qu'on va utiliser notre carte Nubi, on donne un petit peu d'argent à un système qu'on essaye de combattre par la création de Nubi.
Ouais.
En fait, Nubi, pour être une banque coopérative qui fait complètement sens par rapport à son intention, a besoin d'un système bancaire public socialisé qui la soutienne. En fait, on a besoin d'avoir une structure, un peu comme le rail, on a besoin d'une structure commune, publique, qui est gérée dans l'intérêt de la population.
Du coup, en l'état actuel des choses, est-ce que Nubi est capable de servir à quelque chose en quelque sorte ? Est-ce que Nubi va pouvoir financer des projets qui ne seraient pas financés par le secteur bancaire classique ? Et est-ce que Nubi est même capable de survivre dans ce contexte-là ?
Pour moi, Nubi a de l'intérêt dans le sens où, d'une part, ça fait 9 ans que je milite sur le sujet des banques et de la finance. J'ai jamais vu autant de gens parler des banques et de la finance. Au café, dans les dîners en famille, etc.
Ouais.
Franchement, ça n'est pas arrivé. Même en 2008, en 2009, 2010, c'est pas arrivé. Donc, ça a cet intérêt-là. Ça remet ce sujet sur la table, quoi. Et ça en fait un sujet de discussion publique. Maintenant, c'est pas du tout assez. Il faudrait pour moi, Nubi peut fonctionner si les membres de son assemblée générale, si tous les coopérateurs, coopératrices comprennent la dimension politique qu'il peut y avoir derrière un projet comme Nubi. Il faut faire de Nubi une sorte de cheval de Troie. Il faut être derrière cette institution, parce que sinon, si on laisse l'équipe Nubi et la direction de Nubi seule dans ce monde de requins, elle va aller de compromission en compromission et petit à petit ça va plus aller. Il faut l'histoire de KPMG, du commissariat aux comptes, pour pouvoir permettre à Nubi de se défaire de cette exigence, de cette nécessité de l'impossibilité de passer par un autre commissariat aux comptes. Il faut un gros mouvement derrière, et ça va être pareil pour plein de moments de la vie de Nubi. Donc je crois que c'est ça montre que on peut pas en fait juste déléguer ces sujets-là. Ça demande une implication. Comme on a eu de l'implication des membres de la coopérative Nubi pour sa création, et ben il va falloir de l'implication pour son existence, quoi. Pour que ça serve à quelque chose et que ça donne envie d'aller beaucoup plus loin et que ça montre la nécessité d'aller beaucoup plus loin.
Aline Farès, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup pour votre temps.
Merci beaucoup.
Je rappelle que dans le cadre de la création d'une bande dessinée nommée Chronique d'une ex-banquière, Aline Farès met en lumière le rôle des banques dans le financement des différents acteurs. Vous pouvez aller consulter son site alinefares.net en un mot. Vous y trouverez toutes les informations utiles.
Sachant que la bande dessinée, c'est pour dans un an à peu près.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Aline Farès.
Merci.
Au revoir.